Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
9 août. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner dans votre routine matinale. On espère que le café est chaud, que la tasse est remplie et que vous êtes prêts à rester avec nous pour les deux prochaines heures. La saga de l'annulation du défilé de la fierté dimanche continue d'occuper l'actualité. On a appris que la mairesse, qui, on peut le dire, là, était vraiment fâchée dimanche de l'annulation, ben, elle a rencontré les représentants de Fierté Montréal, dont le directeur général. Elle a réclamé une enquête indépendante pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances d'annulation du défilé de la fierté. Rappelons que la Ville de Montréal contribue à hauteur de 600 000 $ aux festivités entourant la fierté. D'ailleurs, ce matin, on lit dans le journal La Presse, on voit le témoignage de plusieurs anciens organisateurs, des membres influents de la communauté LGBTQ+, qui expriment leur déception puis leur incompréhension de ce qui s'est passé. Eux aussi, ils veulent avoir des réponses à plusieurs questions fort légitimes. Sinon, ailleurs dans l'actualité, ben on apprend que finalement, la coroner en chef, Maître Descaries, a annoncé la tenue d'une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur tous les événements et les circonstances entourant le meurtre de ces trois personnes, trois innocentes victimes la semaine dernière, des victimes de Mohamed Cheikh, qui était une personne qui souffrait de très graves problèmes mentaux, et qu'on a tout simplement échappé. Le système l'a échappé alors qu'on le connaissait violent, on le connaissait dangereux, et on savait qu'il était capable de faire très mal à des citoyens, à lui et à autrui. La presse, maintenant, nous parle également du nombre de candidatures records, finalement, des communautés autochtones lors des prochaines élections. On parle d'un potentiel de 9 candidatures qui vont être chez les libéraux, Québec solidaire, la CAQ. Et on pourrait potentiellement, espérons-le, je le souhaite, on pourrait assister à l'élection de la première ou du premier député autochtone à l'Assemblée nationale, ce qui serait une excellente nouvelle et finalement qu'elle devienne plus représentative du Québec et des différents segments de la société québécoise qui la compose. Le Journal de Montréal rapporte ce matin que Marie-Ève Proulx, l'ancienne ministre caquiste et députée de Côte-du-Sud, elle fait l'objet de nouvelles accusations d'harcèlement psychologique. Ce sont des accusations qui sont formelles. C'est son ancien attaché politique qui a porté plainte auprès du tribunal administratif du travail pour des gestes portés auprès d'elle après que Mme Proulx ait été écartée du Conseil des ministres pour plusieurs accusations et allégations semblables. On parle d'harcèlement psychologique, on parlait de table tournante, de porte tournante dans le cabinet de l'ancienne ministre. Et alors que les élections, ben, ils arrivent à grands pas, là, c'est le 3 octobre prochain qu'on va aller voter. La députée a déjà été investie en mai dernier comme candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud. Ça, c'est dans la région de Montmagny. Est-ce que M. Legault va réviser cette candidature parce qu'elle pourrait lui porter préjudice et faire un sideshow dont il ne veut pas? On le sait pas encore, mais ça commence à être un sérieux problème. Lorsqu'on voit le bilan de l'ancienne ministre, là, on parle de 14 départs, 2 plaintes formelles au tribunal administratif du travail. Commence à y avoir un pattern là-dedans qu'il va falloir un jour garder dans le blanc des yeux puis de répondre à toutes ces personnes qui disent que ça n'a pas de bon sens de travailler avec Marie-Ève Proulx. Il y a également cette découverte macabre qui a été faite hier par un éboueur à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Imaginez, c'est le corps d'un homme dans la cinquantaine qui a été trouvé dans une benne à ordures. Et tout laisse à croire que cette personne a été victime d'un geste criminel violent. Parce qu'à la dépouille, là, elle portait des marques de violence, ce qui laisse croire que c'était vraiment un homicide dont elle a été victime. Et évidemment, une enquête policière va mettre la lumière sur les circonstances ayant mené à ce meurtre sordide. Chez nos voisins américains, cette fois, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé lundi que sa résidence de Floride, le fameux complexe Mar-a-Lago, ça a été perquisitionné par le FBI et selon les médias américains, c'est lié au fait que des documents classifiés avaient été envoyés à la résidence de l'ancien président alors qu'il ne devait pas quitter Washington. Évidemment, vous imaginez à quel point l'ancien président, il crie au complot, qu'on veut l'empêcher de se représenter. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a autant pardonné de choses que Donald Trump? Je pose la question. Finalement, on apprend que le ministre fédéral des Transports, Omar El Gabra, il devrait être auditionné dans le cadre d'une commission parlementaire à Ottawa d'ici quelques jours à propos du chaos, du bordel dans les aéroports canadiens qui ont perturbé le voyage des concitoyens. Et je vous dirais que c'est bien la moindre des choses qu'il ait formellement à s'expliquer sur les ratés qui ont gâché les vacances de plusieurs. Des retards, du manque de personnel, de l'annulation de vol, la gestion des bagages qui était complètement catastrophique. L'application à ArriveCan, elle fonctionne-tu, elle fonctionne-tu pas? Les tests aléatoires, est-ce qu'on les a mis, est-ce qu'on les enlève? On le sait plus. Cet amateurisme-là, il y a un prix. Et le prix, c'est d'avoir attiré l'attention des médias internationaux comme le New York Times et la BBC. On avait-tu besoin d'attirer l'attention sur notre chaos dans nos aéroports? Le ministre va devoir expliquer comment tout ça a pu se faire sous sa responsabilité. Et personnellement, j'ai bien hâte d'entendre la réponse parce que, comme contribuable, ce n'est pas un privilège que d'avoir des infrastructures de voyage qui fonctionnent. C'est un droit qu'on paye cher avec l'argent de nos taxes et nos impôts.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Hier, le journal Le Devoir titrait que l'égalité homme-femme reste à faire. Ça faisait la une du journal Le Devoir. Et on rapportait des statistiques quant aux écarts salariales et le nombre de temps consacré aux tâches domestiques entre les hommes et les femmes.
Tout à fait, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui sort ça à chaque année, grosso modo. C'est toujours assez intéressant de voir ça. Puis je voulais attirer l'attention sur la question des tâches domestiques. Ici, il y a comme une forme d'inégalité, c'est comme ça qu'on le présente du moins. On parle que les femmes font une heure de plus de travaux domestiques par rapport aux hommes, donc chaque jour. Préparer le souper, faire le ménage, on peut s'imaginer tout ce genre de choses-là qu'on fait et qu'on n'est pas nécessairement heureux de faire. Moi, j'en profite, ma blonde est encore couchée. Je pense pas que je respecte la moyenne, je pense que j'en fais plus que ma blonde. Mais ça, si elle était là, peut-être que...
C'est facile à dire quand t'es couchée, ça demande beaucoup de courage de ta part.
C'est ça, exactement.
On va lui envoyer le segment vidéo. Elle va trouver ça à son réveil. Et je te souhaite une excellente journée, David Santarossa. Adieu.
Oui, non, c'est ça, exactement. Je suis pas sûr d'être là pour la chronique de demain. Blague à part, je me pose la question si... j'ai pas de doute, j'ai pas de problème à croire qu'en moyenne, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a aussi une forme de norme féminine différente de celle masculine par rapport aux travaux domestiques? Et je m'explique. Quand j'ai un ami dont je tairai le nom, parce que c'est pas nécessairement glorieux.
Ça commence
que
souvent mal de dire j'ai un ami pour expliquer une situation un petit peu délicate, mais je te laisse aller au fond de ta pensée, comme dirait Marc Tanguay.
Quand il était célibataire, son appartement, disons, c'était pas l'endroit, c'est ça, le plus glorieux. C'était assez poussiéreux, la vaisselle n'était pas toujours faite, mais il était heureux là-dedans. Maintenant, il est en couple et son appartement, on peut manger à terre, là, c'est-à-dire c'est propre. Et je me pose la question, est-ce que finalement, il y a en moyenne, évidemment, je ne veux pas généraliser, là, mais en moyenne, est-ce qu'il y a une forme de normes féminines que les femmes, en moyenne, aiment davantage avoir un appartement ou une maison un peu plus ordonnée que les hommes, et ça fait en sorte que les femmes sont peut-être un peu plus prêtes à en faire. Je me pose la question ici.
La question, c'est est-ce qu'elles sont prêtes à en faire ou est-ce qu'elles doivent en faire, parce que si elles le font pas, il y a personne d'autre dans la maison qui va le faire. Ça aussi, c'est une question qui est à poser. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes où l'appartement complètement pouilleux ou la maison où on peut manger à terre, là, mais tu sais, une maison qui est propre puis qui est utilisable, où on peut manger sur une chaise puis sur une table avec des ustensiles propres, tu sais, comme une moyenne, là, disons. Est-ce que dans cette moyenne-là, les femmes en font plus que les hommes? Je suis persuadée que les femmes en font plus que les hommes.
Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai pas de difficulté à le croire, comme je te dis, mais je me demande à nouveau, et c'est vraiment ça la question de fond, j'ai l'impression, c'est est-ce que... Parce qu'on vit dans une société libérale où de plus en plus on dit « Ah, faut pas juger les gens », mais là, il y a une relation entre un homme et une femme on dit que la femme en fait plus pour ça, l'homme en fait moins pour ça, sur tel sujet. Puis là, est-ce que collectivement, il faudrait se mêler de ça puis dire « ça n'a pas d'allure, il faudrait que ce soit 50-50 dans les tâches domestiques ». Je sais pas, il y a comme une relation de couple. On n'a pas accès
qui
à tous les détails.
Démontre qu'il y a une donnée qui est systémique et qui est à chaque année la même, celle que les femmes font plus. Là, c'est pas comme si il y a une année, on disait c'est les hommes qui en font plus, puis l'année d'après, c'est les femmes qui en font plus, puis là, finalement, ça finit par trouver une moyenne. Mais c'est continuel. À chaque année, les données démontrent que les femmes en font plus. C'est là où ça devient intéressant statistiquement.
Oui, mais ça reste, c'est dans le foyer familial, tu sais. Historiquement, je veux dire, l'État ou la discussion collective, évidemment, autant que ce soit pas criminel ce qu'on fait, mais ça arrêtait au bord de la porte, là. Donc, je me pose la question...
On devrait pas s'y intéresser, d'après toi?
Oui, on peut s'y intéresser, mais de plus en plus, plus va notre société, plus on dit faut pas juger les gens, puis je me dis... Ben les couples font aussi des accords entre eux, puis on n'est pas au courant de tout. Peut-être que l'homme en fait moins là, mais il en fait plus ailleurs, je sais pas.
Mais ça, c'est surinterpréter des données qui sont juste objectives sur le nombre d'heures consacrées à certaines tâches. On se pose aussi la question du nombre de femmes, par exemple, entrepreneurs, combien d'heures par semaine en moyenne elles accordent au réseautage par rapport aux hommes au réseautage. Il y a une grande disparité là-dedans. Ça peut nous laisser croire que, évidemment, elles peuvent moins contribuer au succès de leurs entreprises puisqu'elles passent moins de temps à tisser des liens d'affaires avec le réseautage. Ces données-là sont quand même parlantes quelque part.
Oui, probablement que c'est parlant, mais on pourrait dire, c'est-à-dire que s'il y a un déficit, s'il y a un déséquilibre entre l'homme et la femme dans le couple, c'est au couple de régler ça en quelque sorte. C'est pas.
Mais il y a personne qui essaie de le régler à leur place. C'est une constatation que année après année, les femmes en font plus.
Oui, de ce point de vue-là, on est d'accord. Puis aussi, évidemment, la question qui est en lien avec ça aussi, des emplois genrés. Hein? Moi, par exemple, je fais un travail, et là, j'ouvre les guillemets, là, je fais un travail de femme étant enseignant. Hein? Donc, la majorité des enseignants sont en fait des enseignantes. Et contrairement à ce que dit l'article du Devoir, puis contrairement à beaucoup ce qu'on entend, moi, ça me cause plus ou moins de problèmes qu'il y ait certaines différences. Évidemment, faut pas que ça soit... du 99% de femmes et 1% d'hommes ou vice-versa. Mais quand il y a une tendance en enseignement, par exemple, je trouve pas ça surprenant puis ça me fâche pas tant que ça. Au contraire, même historiquement, en prenant en considération ces différences-là puis en disant, écoutez, les emplois traditionnellement féminins, il y a peut-être une espèce de rattrapage salarial à faire. Donc non, ça me dérange pas vraiment que les emplois soient en quelque sorte genrés, comme on le dit dans l'article.
En fait, c'est que c'est pas tant le problème qu'elles soient genrées qu'on se rend compte que celles qui sont genrées sont moins bien payées. Et c'est là où ça devient une problématique, où on se pose la question, est-ce qu'elles sont moins bien payées parce que ces professions-là sont genrées? Qu'est-ce que t'en penses, David?
Il y a mille et une raisons aussi. Faut pas non plus simplifier le tout. C'est sûr que historiquement, il y a cette explication-là. Certains emplois étaient davantage réservés aux femmes, donc on les a moins valorisés. Il y a aussi l'aspect, faut le prendre en considération aussi, là. C'est-à-dire que les emplois typiquement féminins, c'est des emplois beaucoup qui se travaillent dans le personne à personne, hein, avec l'humain. Donc, on parle enseignant, on parle du monde de la santé, on parle de la psychologie. Et c'est des emplois c'est difficile de faire des économies d'échelle. Donc, tu sais, si t'es un ingénieur, tu fais un logiciel, tu peux le vendre 100 000 copies. Si t'es un enseignant, c'est pas mal plus difficile de te multiplier. Tu peux pas encore te cloner, malheureusement. Mais donc ça, c'est une des réalités aussi qu'on doit prendre en considération. À nouveau, je minimise pas aussi l'aspect du sexisme historique, si on peut dire, là. Mais donc c'est difficile aussi de comparer des salaires en différents milieux, ça c'est certain.
Ben c'est sûr que lorsqu'on voit dans les statistiques que dans l'enseignement, services sociaux et la santé, les femmes sont largement dominantes, et ce sont des domaines où les salaires sont plus bas par rapport au domaine de la gestion, qui reste un domaine où il y a aussi de l'être humain, là on est dans les domaines de gestion, de cadre, des emplois supérieurs. Ben on est en droit de se poser la question, pourquoi ces postes-là, alors qu'on a vu qu'ils étaient encore plus importants durant la pandémie, demeurent les parents pauvres du marché du travail en général?
Ouais, tout à fait. Ah, c'est sûr, c'est pas des emplois aussi. On le voit de plus en plus. Hein. Il y a comme une espèce de pénurie. Ben, ça date pas d'hier, là, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, d'enseignants. Et ça revient un peu à la discussion qu'on avait il y a quelques jours sur la question de la valorisation des emplois. Ça revient à chaque année dans les nouvelles. Puis on n'a pas fini, ça c'est certain.
Tu veux revenir sur la chronique de Sophie Durocher à propos de la violence qui est tolérée dans les propos, dans les paroles de certaines chansons, notamment celle du groupe québécois Dope Gang.
Oui, tout à fait. Je veux montrer une espèce de paradoxe de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du bannissement. Hein. Donc aujourd'hui, on voit une espèce de problème à dire le titre d'un essai contenant ce qu'on appelle le mot en haine aujourd'hui, ou de faire une pièce de théâtre avec des chants d'esclaves. Mais d'un autre côté, il y a le groupe Dope Gang qui parle, et là j'ouvre les guillemets, hein, c'est pas moi qui dis ça, d'éclater des ports. Évidemment, on fait référence ici à la police. On parle de brûler le Québec de Legault. Donc ça, on parle aussi dans la chanson des Boomers et tout ça. Donc, c'est des commentaires très, très inquiétants. Et le groupe a été présent à Fierté Montréal, qui vient de se terminer en fin de semaine. Et je me dis, évidemment, je ne souhaite pas la censure ici, mais il y a une différence entre censurer un groupe et décider de ne pas en faire la promotion. Et moi, ça me chicote vraiment qu'on fasse la promotion d'un tel groupe qui a des paroles franchement inquiétantes.
Est-ce qu'on aurait dû ne pas recevoir Sean Paul à l'île Sonic en fin de semaine?
Je ne connais pas assez ses paroles, mais on peut la question se pose, ça c'est certain.
Mais alors, c'est finalement, t'embarques dans cette culture du bannissement et de la cancel culture où on garde ce qu'on veut puis qu'on tasse et qu'on étouffe du moins ce qu'on veut pas.
Ben, je veux dire, quand il y a véritablement et à nouveau, il y aurait une différence aussi entre canceller quelqu'un et dire, d'après ma barre, ben, écoutez, ils mettent de l'avant des valeurs qui sont franchement inquiétantes. Et à tout le moins, je le répète parce qu'on en a parlé dans certains médias, on n'est pas obligé d'en faire la promotion. Donc ça, c'est vraiment... Et il faut surtout le critiquer quand on le présente, ce qu'on ne faisait pas ici et là.
Est-ce qu'on devrait arrêter de diffuser des chansons hip-hop, notamment américaines, sur les ondes des radios, qu'elles sont anglophones ou francophones?
Moi, j'aurais tendance à dire que non, je le répète, mais à nouveau, c'est ça le paradoxe de la culture du bannissement. On est très, très sévère pour quelque chose qui est inoffensif, faire une pièce de théâtre. Je veux dire, on peut être d'accord ou non avec Robert Lepage, hein, on se rappellera de la pièce slave à l'été 2018, mais en même temps, ça reste assez bénin par rapport à des espèces de menaces de brûler des condos, brûler le Québec de Legault et d'éclater des ports. Il y a une espèce de paradoxe.
Mais ça, ça dépend dans quelle posture on se pose. Parce que si je parle à quelqu'un de la communauté noire ou quelqu'un qui a vu cela, ben, peut-être qu'il peut considérer que les chansons, les artistes que sont ce groupe de musical, c'est inoffensif par rapport à la pièce de théâtre qui a une portée plus grande. Donc, ça dépend d'où est-ce qu'on se place.
Ah, mais il y a une limite, je comprends la posture un peu relativiste, là, Yasmine, mais il y a une limite, là, je veux dire. Ici, on a quand même quelque chose d'assez objectif, éclater des ports en faisant référence à la police. C'est un commentaire violent, il n'y a pas de doute, là. Mais par contre, faire une pièce de théâtre, je veux dire, là, il y a véritablement une question de sensibilité, si on peut dire, puis ça, c'est étirer un peu l'élastique à mon sens, là. Il y a une limite au relativisme, je pense.
J'appelle juste à la cohérence, que c'est soit on veut la culture du bannissement, soit on la veut pas, mais être à demi enceinte, c'est très difficile. David Santa Rosa, merci beaucoup. On se reparle demain.
Yasmine Abdel Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
3 jours par semaine au centre-ville, c'est ce que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain demande, réclame, espère que les travailleurs vont décider de faire venir travailler au centre-ville 3 jours par semaine. Olivier Bourque, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça va se faire?
Bien, ça, c'est toutes des bonnes questions, Yasmine, que tu poses ce matin. Je vais tenter d'y répondre, mais c'est sûr et certain qu'il y a toujours un gros point d'interrogation, et tu le connais, ça s'appelle la COVID.
Et l'habitude que crée la COVID.
Et les habitudes que crée la COVID, exactement. Et je suis certain que si on posait la question à Michel Leblanc, qui est le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dans son fort intérieur, il dirait, moi, perso, c'est pas 3 jours, j'aimerais, c'est 4 jours et même 5 jours. Alors, il voudrait vraiment que les travailleurs reviennent au centre-ville. Mais évidemment, il y a toujours des points d'interrogation. Surtout, je te dirais, pour l'automne. Parce que là, on est quoi? Je vais t'avouer, j'ai de la difficulté à suivre, là, mais on est à la fin de la 7e vague?
La 7e qui va donner le relais à la 8e. Là. On est comme dans l'athlétisme, là, c'est un jeu de relais.
C'est ça, c'est comme une course à relais, effectivement. Donc là, on est à la fin de la 7e, mais là, on imagine qu'à l'automne, Yasmine, on va avoir quoi? La 8e qui va repartir. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en 2020 et en 2021, il n'y avait pas vraiment de vagues durant l'été, où les vagues étaient très, très faibles comparativement à celle-ci. Alors, c'est pas de bon augure. Avec le retrait donc du masque, c'est sûr et certain que ça amène davantage de quoi. Alors, il faudra voir la situation donc à l'automne, parce que Montréal, puis tu t'en rappelles, on en a parlé la semaine passée, Montréal souffre énormément. Le centre-ville de Montréal, c'est très, très difficile. On a récupéré, grosso modo, quoi, 44% de l'activité économique. Si on compare à d'autres villes américaines comme New York, qui ont récupéré 78%. Donc, Montréal, vraiment, c'est plus difficile. L'avantage, je te dirais, pour le centre-ville de Montréal, c'est que il n'y a pas seulement les travailleurs qui amènent l'activité économique. Il y a les résidents également. Tu sais, on a des campus universitaires oui. à Montréal, directement dans le centre-ville.
Ben, on a l'UQAM et Concordia, puis c'est entre les deux que tout se passe, ou presque.
Oui, puis même McGill. Tu sais, franchement, là, tout ça, c'est au centre-ville, Yasmine, dans le fond. Là. Parce qu'il y a des villes américaines, tu vas là le soir, franchement, il se passe rien.
Mais il y en a beaucoup, là.
Complètement.
Oui. Je me rappelle d'une petite escapade que j'avais fait avec mon mari à Buffalo à partir des chutes Niagara. On avait nos passeports, puis on s'est dit, ben pourquoi pas, traversons, allons de l'autre bord de la frontière, souper à Buffalo. Je peux te dire qu'on n'a même pas mis les pieds aux États-Unis tellement qu'il n'y avait rien à faire. On est retourné en courant pour aller manger à Niagara.
Ouais, d'ailleurs, petit aparté, là, il y a deux côtés à Niagara Falls. Hein. Le côté canadien est superbe. Hein, il y a des hôtels, tout ça, puis le côté américain est sinistre, quasiment.
Si on compare avec.
Il est plate. Alors, effectivement, il y a des villes américaines qui sont plates le soir. Ça, c'est l'avantage pour Montréal, quand même. On a des résidents, on a des étudiants, mais il faudra évidemment que les travailleurs reviennent. Les travailleurs, Yasmine, en ce moment, là, je te dirais, pour les gros employeurs, je vous l'avais dit la semaine passée, mais c'est environ une journée au bureau, 2 jours au bureau. C'est pas 3 jours. Là, effectivement, la Chambre de commerce voudrait qu'on aille jusqu'à 3 jours, semaine. pour aider le centre-ville. Alors, il faudra voir si on sera capable de se rendre jusqu'à 3 jours semaine. Parce que là, on l'a dit, le gros point d'interrogation, c'est la question de la COVID. Alors ça, c'est pour le centre-ville, mais on l'a dit, le centre-ville a quand même des avantages. Il y a des résidents qui sont là, il y a des étudiants, évidemment, donc on attend le retour des travailleurs. On parle beaucoup de centre-ville, mais tu sais qu'il y a d'autres pôles à Montréal. L'est de la ville, également, accueille de plus en plus de travailleurs. Et franchement, hier, ça m'a surpris, je ne sais pas ce que tu en penses, la tour, alors le mode du stade olympique, qui est maintenant, comme on dit en bon français, full house.
Ah?
Tous les étages, Yasmine, maintenant, sont occupés par des travailleurs. Et ça, c'est une première. Ça, c'est une première. Donc, depuis que la tour est complétée, tu sais qu'en 1976, aux Jeux Olympiques, elle n'était pas complétée, là. C'était quasiment une honte, là. C'était une honte nationale.
Ça, c'est comme les gâteaux de mariage, là, où c'est de styromousse, 4 étages, puis comme il y a comme un petit bout pour les mariés puis se couper dedans. Ça ressemblait à ça, notre stade, pendant les Jeux Olympiques.
Ouais, la portion du haut était pas faite encore. Ouais, il manquait le gâteau du haut. Et finalement, ça a été complété en 1987. Mais la bonne nouvelle, franchement, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Sigma RH, donc une entreprise de ressources humaines, qui était située donc au 10e et au 11e étage. Et là, ils ont décidé de se déployer encore plus jusqu'au 11, je me sers à suivre, là, 11, 12, 13, 13e étage finalement. Alors, toute la portion du haut sera occupée par cette entreprise-là. Et la portion du bas, ben c'est Desjardins, depuis plusieurs années, Desjardins Accédé qui est situé là-bas. Si bien que dans le mât, donc dans la tour du Stade olympique, il y a 2000 travailleurs actuellement.
Probablement la tour la plus occupée sur l'île de Montréal, parce que je pense pas qu'il y ait des tours au centre-ville où il y a 2000 travailleurs.
Oui, absolument, tu as tout à fait raison. En tout cas, c'est une des tours les plus occupées. Et ça me fait penser, on a parlé des cônes d'orange, tu sais, la semaine passée, Pierre de Coubertin en face du stade, là, je pense que c'est en construction depuis environ 2 ans. Là. Alors, il faudra compléter, évidemment, donc les travaux hein, pour accueillir tous les travailleurs, parce que tous ces travailleurs-là seront là à partir de janvier 2023 pour 13 ans. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et il faudra aussi davantage de restauration dans l'est de la ville. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dans cette portion-là. Alors, un quartier qui est en train de se redéfinir, un quartier qu'on disait qu'il était complètement désuet également. Ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Est de Montréal.
Excellente nouvelle. Sinon, l'échelle des moins bonnes nouvelles, on parle de produits russes qui sont toujours importés au Québec.
Oui, ça, c'est... je sais pas pour toi, Yasmine, mais moi, ça m'a surpris, ça.
Il me semblait qu'il y avait comme une grosse opération de boycott au début de la guerre. On commence tout à l'oublier?
Oui, exactement. Et il y a des sanctions également, des sanctions canadiennes. À quelque part, on est capable de déjouer les sanctions. C'est notre collègue Michel Girard qui nous apprend ça. Mais même il y a quelques semaines, mon collègue Francis Allain avait travaillé là-dessus. Imagine-toi donc que là-bas, donc en Russie, ils ont beaucoup, beaucoup d'engrais qui est utilisé un peu partout dans le monde. Et les autorités là-bas, les autorités russes, étaient même prêtes à payer les tarifs, parce que c'est des tarifs qu'on leur impose ici. C'est ça les sanctions, les sanctions économiques. Étaient même prêtes à payer les tarifs pour avoir accès au marché canadien. Donc, même en payant les tarifs, c'était profitable pour eux, on pourrait dire, donc le secteur de l'engrais. Alors, il y a encore des échanges commerciaux entre, mettons, le Canada et le Québec. Il y en a pas beaucoup, cela dit. C'est un montant qui est très, très faible selon Statistique Canada. Michel Girard est allé vérifier là, dans tous les chiffres. En fait, pour le mois de juin dernier, c'était 44 millions de dollars qu'on avait importé de la Russie.
OK, ça reste marginal.
Pas beau. De marginal, effectivement. Puis pour le Québec, c'est 31 millions de dollars. Donc, c'est 70 % de tout ce qui est importé au Canada. Ça fait dire à Michel qu'on devrait quand même, même si le montant est faible, Yasmine, on devrait quand même se garder une petite gêne, hein, en contexte de guerre en Ukraine, en contexte de sanctions économiques. Et,
mais Olivier, notre gouvernement fédéral vend des turbines. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne suit pas notre gouvernement fédéral?
Ben oui, absolument. Il y a la question des turbines. Puis même, je te dirais, on l'avait dit au début, on a dit « Ah, la Russie, tout le monde va arrêter d'acheter du gaz russe. » Ce n'est pas vrai. Et du pétrole russe. Parce que la Russie, c'est vraiment, on appelle ça des fois même une mono-économie. Là. C'est une économie de métaux, une économie de ressources, de gaz puis de pétrole. Mais les Européens, ils sont même pas capables d'arrêter d'acheter du gaz. Tu l'as vu?
Ben oui.
Puis le pétrole. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben la Russie continue d'engendrer des profits puis des revenus. Alors, j'ai l'impression que les gens étaient dopés à l'économie russe, aux ressources russes. Puis là, actuellement, on a de la difficulté à s'en passer, surtout pour différents marchés, notamment l'Europe et la Chine.
Finalement, notre psychologue Olivier Bourque, vous nous conseillez maintenant de pouvoir réouvrir, réinstaller nos applications de suivi des indices boursiers parce que ça va bien. Mais là, mettez pas ça de manière permanente, là. Vous pouvez encore les supprimer dans les prochaines semaines.
Ouais, mais tu sais qu'une application, tu peux la supprimer, Yasmine.
Ben oui, la mettre en sourdine, la supprimer.
Voilà, exactement. Tu peux décider de ne plus la regarder. Sincèrement, mon application, dans mon cas à moi, donc c'est Desjardins, je regarde notamment des placements là-bas, je ne fais pas de publicité pour eux autres, mais enfin bref. Et lors des derniers mois, des dernières semaines, je regardais seulement d'un œil, Yasmine, ou presque. Oh mon Dieu, c'était difficile. On peut recommencer à regarder plus longtemps, je te dirais, la bourse qui a augmenté, en fait, une hausse quand même substantielle lors des dernières semaines, notamment le fameux Dow Jones aux États-Unis, augmentation de 5% donc sur un mois. Alors, tu diras, c'est pas le Pérou, mais quand même 5%.
Mais on n'est pas loin, non, tu sais, par rapport à où est-ce qu'on était.
Où est-ce qu'on était? Parce que depuis le début de l'année, en fait, au mois de juin, où ça avait beaucoup, beaucoup descendu, on avait des mauvaises nouvelles économiques. Évidemment, on parlait beaucoup de la guerre en Ukraine. L'inflation faisait très, très mal. On avait des 9% donc aux États-Unis. Eh bien, le marché boursier avait descendu jusqu'à à peu près 20%. On disait même qu'on était en « bear market », le mot qu'on veut pas entendre, un marché baissier. Là, on est plutôt donc à moins 10%. Et je te dirais, sur 5 ans, lorsqu'on regarde avec perspective, c'est là que c'est encourageant, sur 5 ans, quand même, la bourse américaine qui a monté de 50%, Yasmine.
C'est quand même intéressant. Alors, on va être prudent, par contre, dans notre optimisme pour ne pas être déçu. Et on va prendre chaque jour à la fois.
Oui, oh, mon Dieu, c'est bien. C'est de la sagesse, Yasmine. Parce que l'inflation, on aura les données de l'inflation aux États-Unis cette semaine. Alors, ça va jouer dans la balance. C'est sûr et certain que on était à 9%, si je me rappelle bien, lors du rapport. Si ça descend aux alentours, par exemple, de même 8,5%, 8%, tout dépendant des attentes, eh bien là, le marché encore là pourrait repartir. Ça voudra dire que les banques centrales auront réussi à juguler l'inflation et te dire que les données de l'inflation au Canada, ça aura lieu la semaine prochaine. Encore là, ce sera très important pour la suite des choses.
Et je suis sûre qu'on va en parler puis qu'on va analyser tout ça ensemble. Olivier Bourque, toujours un plaisir de te parler. On se reparle demain.
Bye-bye, à demain.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Marie-Soleil Touga, c'était vraiment l'enfant chéri de la télévision.
Marie-Soleil et Sébastien Touga, les deux enfants dans toute banane.
C'était comme évident qu'elle était promue à faire quelque chose et en plus, elle voulait beaucoup.
Jean-Claude Lauzon, sous la nuit.
Jean-Claude, pour moi, c'était comme un pitbull. Il est peut-être pas gros, mais c'est clair que ça peut faire mal.
La culture, c'est pas les gens qui vont discuter à Cannes en mangeant des crevettes.
S'il voulait envoyer chier le monde, il le faisait, mais ça, c'est une partie de Jean-Claude.
C'est seulement les deux extrêmes qui s'attirent parce que c'était vraiment, vraiment les deux extrêmes.
Ce que vous avez entendu, ben c'est le documentaire sur Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon qui sort aujourd'hui. Et donc 25 ans après le drame de la mort des deux personnalités, Jean-François Poisson, réalisateur du documentaire, est avec nous pour nous présenter ce documentaire qui risque d'être très touchant. Bonjour, Monsieur Poisson.
Salut.
Alors, est-ce que ça a été compliqué de retrouver des archives? Ça a été quand même un moment important, un moment qui a fait en sorte que tout le Québec était rivé devant son téléviseur pour se dire comment ça a pu se passer.
Pour ce documentaire-là, ça peut être difficile de trouver des archives parce que comme il y a beaucoup de leur vie qui a été télédiffusée, ben on est allé chez TVA. Et il y avait aussi les proches de Marie-Soleil qui avaient gardé beaucoup de vidéocassettes. Donc, il y avait peut-être des émissions qui s'étaient perdues, qu'on a pu retrouver facilement en les ayant. Ça a été quand même assez simple d'avoir des archives. Par contre, il fallait les trier, il fallait les visionner. Ça a été plusieurs heures d'écoute pour trouver les bons extraits. Mais quand tu fais une biographie sur des artistes qui ont été médiatisés, ben c'est sûr que c'est un plaisir d'avoir autant de visuels pour pouvoir, et quand même facile à trouver, pour pouvoir appuyer ton histoire.
On sait que ils sont décédés dans le crash d'un Cessna à Coudjouac.
Ouais.
Alors qu'il y avait finalement deux avions qui se suivaient, là, dont un avec Patrice Lécuyer. Est-ce que qui sont les proches que vous avez reçus en témoignage?
On a reçu, en fait, nous, quand on commence notre démarche documentaire de façon éthique, on appelle des gens. On fera pas un documentaire si les proches des. Bon, mais là, dans ce cas-ci, ce sont des victimes. Si les proches ne nous donnent pas leur aval. Ils ne donnent pas leur aval. Donc, on a appelé d'abord la famille de Max Soleil, évidemment, sa mère, son frère, qui ont décidé, ils ont réfléchi, ils ont décidé d'embarquer dans le projet parce que on était contents de ça. C'est important qu'ils nous donnent leur bénédiction. Ensuite, on a appelé, bon, c'est sûr que Jean-Claude Lauzon vient d'une famille qui était assez pauvre. C'est quand même assez difficile de retrouver cette famille-là. Donc, on a appelé ses amis les plus proches, Gaston Lepage. On a appelé une de ses très bonnes amies là, avec qui elle fait un documentaire qui s'appelait Lauzon, Lauzon, il y a plusieurs années. Donc, quand on a eu quand on a parlé à ces personnes-là, que tout le monde embarquait, ben là, on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là. Puis ensuite, bien évidemment, on a parlé à des amis de Marie-Soleil, Marie-Ange Gagné, la designer, entre autres. Ensuite, on a parlé à, évidemment, des collègues de travail. Puis tu sais, si tu allais choisir, comme Louise Deschâtelet, comme Guy Mongrain, avec qui elle a animé Fort Boyard.
Bien sûr.
Donc, il fallait aussi choisir des pères. Parce que, tu sais, il y a des gens qui l'ont rencontré, Marie-Soleil et aussi Jean-Claude, dans différents moments de leur vie. Il fallait trouver des intervenants qui étaient complémentaires dans l'histoire. Tu sais, parce qu'on avait quand même pas tant de temps que ça.
Oui.
C'est facile de remplir. J'aurais pu faire 3 heures. Puis, il fallait trouver justement des intervenants qui se complétaient bien. Donc, plusieurs collègues, beaucoup de membres de famille. Donc, Louise Deschâtelet, je le disais, Guy Mongrain. Du côté de Jean-Claude Lauzon, on a Nathalie Petrovski, la journaliste, qui, elle, était très proche de lui. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais il était vraiment très, très proche quand il était jeune parce que le père de Nathalie Petrovski a été le mentor de Jean-Claude Lauzon.
Ah, c'est intéressant, ça. Je le savais pas, honnêtement.
Oui, il était très proche. C'est à cause de lui qui a fait du cinéma. Il l'a poussé à retourner à l'école. Parce que Jean-Claude Lauzon, c'était tout un personnage, en tout cas, de ce qu'on nous a raconté. C'était très fougueux, avec un caractère d'artiste intempestif, mais aussi avec des bons côtés. On l'apprend dans le documentaire.
Alors, le titre, c'est « Marie-Soleil et Jean-Claude, au-delà des étoiles ». Pourquoi « Au-delà des étoiles » ?
Bon, « Au-delà des étoiles », c'est que je voulais aller... C'est le titre qui m'est venu en premier, parce que je voulais essayer d'aller un petit peu... Tu sais, quand on parle, par exemple, de Marie-Soleil Touga, on a vu beaucoup de documentaires. Son image médiatique était très lisse. Tu sais, on a vu certaines émissions de télé, des documentaires, tout ça qui parlait de sa carrière. C'était toujours, là, tu sais, on rentrait... C'était quand même assez lisse. Fait que je voulais essayer quand même d'aller un petit peu plus en profondeur. Évidemment qu'on... On va pas changer l'histoire. Marie-Soleil Touga était la personne qu'elle était. Tout le monde le dit. Elle était extraordinaire. Mais je trouve toujours que c'est les, j'appelle, je sais que c'est un documentaire, c'est des vrais gens. J'appelle ça des personnages. Mais ils sont toujours plus intéressants quand on leur ajoute une profondeur.
Oui,
quand on parle des problèmes amoureux. On essaie d'aller chercher d'autres petits côtés de leur caractère, ce qui fait qu'on va les voir un petit peu plus comme des êtres humains, c'est comme des covers de magazines. Donc, je voulais essayer d'aller le plus loin possible au-delà de l'étoile qu'ils étaient.
Est-ce qu'il y a des histoires surprenantes ou des facettes surprenantes, que ce soit de Marie-Claude Touga ou de Jean-Claude Lauzon, que vous avez appris dans le cadre des recherches menées pour ce documentaire?
Ben pour Marie-Soleil, évidemment, on la connaissait bien. Je pense qu'on l'a vu beaucoup à la télé. Son caractère, on sait qu'elle était une personne gentille, très à l'écoute des autres, pas du tout une artiste là, avec la grosse tête. Ça, on le savait. Évidemment, on n'a pas été capable d'aller... Je n'ai pas capable de lui trouver un côté sombre. Mais quand même, on est allé un petit peu plus loin dans... sa relation amoureuse, peut-être les questionnements qu'elle a eu face à la célébrité. En tout cas, on essaie de toucher à ça. Puis moi, du côté de Jean-Claude Lauzon, j'avais aucune idée que c'était une personne comme ça, là, avec un caractère aussi intempestif. Les gens nous en parlent comme quelqu'un là, de vraiment difficile à côtoyer, ou du moins difficile. C'est difficile de percer la carapace.
Il me semble que ça détonne avec l'image que l'on a de Marie-Soleil et Touga.
Ben, c'est exactement ça qui est fascinant. Je ne sais pas où Marie-Soleil et Touga était dans sa vie pour avoir besoin de ça à ce moment-là. C'est probablement une histoire d'amour qui n'aurait pas duré. Là, je m'avance, mais probablement. Mais à ce moment-là de sa vie, elle avait besoin de se pousser, d'aller vers quelque chose de plus de différent. Puis ben Jean-Claude Lauzon allait dans le Grand Nord, vivait des aventures. C'était vraiment un côté que Marie-Soleil Touga
plus aventurier, qui sort des sentiers battus, qui n'a pas peur de vivre des émotions fortes, alors que Marie-Soleil Touga était plutôt comme vous le disiez, dans le côté très léché des débrouillards, avec une présence très contrôlée de son image.
Oui, exactement. Puis si on s'en, nous, ses amis nous ont dit qu'elle était très peureuse quand elle était jeune. Donc, elle n'était pas, c'était pas une personne qui allait faire piloter un avion, parce qu'elle faisait son cours de pilotage. Piloter un avion, aller dans le Grand Nord, aller à la pêche, aller voir des ours, tu sais, c'était pas dans son caractère de base. Donc elle voulait vraiment se pousser à ce moment-là, puis dans sa relation amoureuse aussi, tu sais, je pense que c'était pas une personne, en tout cas de ce qu'on entend, c'était pas une personne facile à côtoyer. Il a fallu qu'elle fasse plusieurs compromis que des personnes ne feraient pas, si on l'apprend dans le film. C'est une des choses, c'est outre l'accident, tout ça qui a frappé beaucoup de gens, les gens qui étaient en âge de s'en souvenir, se souviennent au moins de quelques images de ça. Là, moi, je pense que ça a été ma première relation au deuil. J'avais 17 ans. Donc, tu sais, j'avais jamais vécu de deuil, de gros deuil dans ma vie. Donc, quand tu vois ça, c'est une personne qui, parce qu'à l'époque, les téléromans, t'écoutais ça le soir, il y avait deux stations de télé, puis c'était des gens qui faisaient partie de ta vie. C'est fascinant. C'est une autre époque quand même. Puis une autre chose qui est fascinante dans la relation Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon, c'est que le milieu de la télévision, c'est vraiment des téléromans, on s'en souvient à l'époque, et du cinéma. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est mélangé. Les séries télé ont l'air du cinéma, ça. Ouais. Mais à l'époque, c'était deux milieux complètement séparés, et même qui se snobaient là, entre les deux.
Oui, ceux qui faisaient de la télé ne faisaient pas du cinéma et vice-versa. Monsieur Poisson, où est-ce qu'on le documentaire sort aujourd'hui, mais où est-ce qu'on peut le retrouver, où est-ce qu'on peut le visionner?
Alors, le documentaire va atterrir sur la plateforme Vrai aujourd'hui, la plateforme de TVA. On peut le voir là. Ça va débarquer là, aujourd'hui au courant de la journée.
Merci.
Je pense qu'on peut s'abonner sur Elix, avec Elix, puis sur Cube, l'application Cube.
Bon, ben on va regarder ça, c'est sûr. Jean-François Poisson, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire Marie-Soleil et Jean-Claude, Au-delà des étoiles.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Culture et société.
C'est la fin d'une époque. Le décès d'Olivia Newton-John hier, ça a marqué nos fils Twitter, nos fils Facebook, nos fils Instagram. La télé, c'est sur toutes les lèvres.
Ouais, et c'est son mari qui en a fait l'annonce, donc hier en milieu d'après-midi sur les réseaux sociaux. Selon ce qu'on peut lire donc dans ce communiqué, elle est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud, entourée de sa famille, ses amis. Et sans surprise, elle est décédée donc d'un cancer du sein pour lequel elle luttait depuis quand même une bonne trentaine d'années. Elle avait été diagnostiquée pour la toute première fois alors qu'elle avait près de 40 ans. Là. Elle avait subi une mastectomie en 1992, mais évidemment, elle avait eu deux récidives, une en 2013, une en 2017 avec métastase. Depuis ce diagnostic, elle s'était vraiment impliquée là, dans la cause. Elle avait mis toute son énergie au service de la lutte contre la maladie. D'ailleurs, il y a un fonds qui a été élaboré à son nom afin de financer la recherche de plantes médicinales et de cancer. Et Yasmine, sa mort a vraiment fait ressurgir de vieilles histoires, notamment celle de la disparition de son ex-mari, Patrick McDermott, qui avait été, avec qui elle avait partagé près de 9 longues années de sa vie. Il était disparu du jour au lendemain de façon très, très mystérieuse, alors qu'il était en voyage de pêche en Caroline. Une enquête de la garde côtière avait, à l'époque, conclu qu'il s'était probablement noyé. Il est présumé mort depuis. Mais là, on sait, les adeptes de théorie du complot adorent soulever à nouveau ce genre d'histoire. Plusieurs disent qu'il aurait donc stimulé sa mort. Plusieurs allèguent même qu'il vivrait à Mexico avec sa nouvelle conjointe. Et qu'il aurait simulé sa mort pour, entre autres, éviter de payer certaines dettes foncières. Et il y a même un détective privé qui affirme l'avoir retracé en 2010. Et selon lui, il vivrait donc sur un bateau non loin d'Acapulco. Il a ajouté que, évidemment, tout ça n'est pas confirmé par les autorités légales ni par Olivia, mais elle, ce qu'elle a dit quelques années plus tard, là, après que ces révélations aient été soulevées dans la sphère publique, c'est qu'elle était toujours hantée par cette histoire-là et qu'elle ne serait probablement jamais en paix avec tout ça. Donc, ça soulève encore une fois de vives questions.
Clairement, je comprends.
La question, on n'a pas fait le tour de la question de cette mort-là.
Peut-être que ça va relancer les différentes théories du complot puis des investigateurs en
herbe. De nouvelles recherches.
Qui vont pouvoir peut-être aller au fond de cette histoire.
En même temps, si c'est lui qui voulait disparaître, laissez-le tranquille.
Laissez-le tranquille. C'est le pauvre petit gars depuis 2010 qu'on ne l'a pas trouvé. Fait que 2005, on l'a pas,
2005, ouais.
Qu'on l'a pas vu. Pourquoi fouiller quand c'est calme maintenant? Elle nous avait marqué dans Grease, notamment... avec John Travolta, on s'en rappelle, c'était quand même l'image d'une femme magnifique, belle.
Pétillante.
C'est quand même une grosse perte pour le cinéma. Puis elle rejoignait différentes générations.
Oui, effectivement. Écoute, moi, j'ai ce leg-là de ma mère. Ma mère qui a écouté le film de nombreuses fois. Et je pense que si je ne l'ai pas écouté une vingtaine de fois, je ne l'ai pas écouté du tout. Donc, c'est le genre de film qu'on prend plaisir à écouter et réécouter, peu importe la génération. Les chansons sont encore belles, les images sont encore belles. Et évidemment, cette histoire d'amour, elle est magnifique. Oui, c'est une belle histoire d'amour et c'est vraiment ce qui a marqué la carrière d'Olivia.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est là qu'on la reconnaît.
Et là, Elton John, qui a une nouvelle collaboration avec nul autre que Britney Spears.
Oui, bien là, vous vous rappelez, hein, il nous avait offert une collaboration avec Dua Lipa, avec la pièce Cold Heart. Il y a un peu plus d'un an, il avait décidé de rafraîchir, remixer certaines chansons d'Elton John. On écoute un extrait.
Il n'était pas supposé être à la retraite?
Il ne l'est plus. C'est souvent ça qui arrive avec les gens qui prennent leur retraite.
On dirait Charles Aznavour en anglais.
Et là, la formule a tellement bien fonctionné. Vous voyez, ça a sorti il y a un an et encore une fois, on la trouve dans le sommet des palmarès qu'il a décidé de réitérer avec nous l'autre. Tu l'as bien dit, que Britney Spears. Ils ont choisi de revampir la pièce Tiny Dancer. C'est une pièce qui sort tout droit des années 70, un grand succès à l'époque. Cette nouvelle pièce qu'on apprend, c'est qu'elle s'intitulera Hold Me Closer. Et... savez-vous qui a eu la chance d'écouter cette chanson? C'est Paris Hilton, qui est une grande amie de Britney Spears. Et selon elle, cette chanson-là sera iconique, rien de moins. Bien hâte d'entendre cette chanson-là parce que ça va être la première pièce musicale que va nous faire entendre Britney Spears depuis la levée de sa tutelle en novembre 2021.
Puis son affranchissement.
Mm-hmm.
Wow, OK. Ben, elle va pas rater son coup avec Elton John, là. Disons qu'elle va avec une valeur sûre.
Oui, et si on se fie à ce que nous a proposé Elton John et Dua Lipa, je pense que ça va être un grand succès.
La marche est haute.
Oui, aussi.
Et là, il y a Ashton Kutcher, pauvre petit loup, qui est atteint d'une maladie auto-immune, puis il se confie.
Ouais, ben là, on apprend que l'acteur, qui est aujourd'hui âgé de 44 ans, a été frappé d'une maladie auto-immune il y a 2 ans de cela. Il s'agit d'une rare forme de vascularite, oui, qui provoque l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Dans son cas, sa vision, son audition et son équilibre ont été touchés très gravement. Ça lui a pris près d'un an avant de se rétablir complètement. Donc aujourd'hui, il est rétabli. Donc il s'est confié à l'émission Access Hollywood. Il a dit que j'ai trouvé ça très beau. Il a dit que la minute où il a commencé à voir ses problèmes de santé comme quelque chose qui pouvait l'aider, comme quelque chose qui pouvait le faire grandir, eh ben c'est là que la vie est devenue belle. Il a pu dominer ses problèmes de santé plutôt que de se laisser envahir par eux ou plutôt que de les laisser le dominer lui-même. Ouais. Là. Donc, c'est une belle façon de voir la vie et je pense aussi que c'est une belle pensée magique pour se sortir de ce genre de problèmes de santé graves. Là. Quand l'audition, la vision et l'équilibre sont touchés...
Beaucoup trop de choses sont touchées dans la vie ouais, là, là-dedans. Oui. Et acheter une couture, on a l'impression qu'il ne vieillit pas parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'éternel adolescent. Mais tu sais, prendre de l'âge, pareil, là.
Oui, c'est pour ça que je vous disais qu'il était quand même âgé de 44 ans. Moi, en parlant d'adolescence, il a bercé mon adolescence dans plusieurs films et séries. Alors, effectivement, on a l'impression qu'il ne vieillit pas, mais c'est signe que nos artistes vieillissent au même rythme que nous.
Ouais. Marika, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se laisse avec Olivia Newton-Jones. You have to believe we are magic. Nothing can stay.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO.
Les finances d'un couple, c'est déjà un sujet assez sensible pour un jeune couple, disons, classique. Imaginez lorsqu'un couple se forme et finalement forme une famille recomposée, donc chacun a ses enfants, et qu'il faut imaginer, prévoir et organiser les finances de la famille. Ce n'est pas chose aisée. D'ailleurs, le Journal de Montréal a tout un texte là-dessus qui a été publié hier. Je vous invite à le regarder. Ça donne quelques conseils. Mais on a avec nous Francine Hamel, intervenante en défense collective des droits, pour nous parler spécifiquement des maux que ça crée pour certains couples. Bonjour, Madame Hamel.
Bonjour, Yasmine, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Donc, dites-nous, les finances dans un couple d'une famille recomposée, est-ce que c'est mission impossible?
Non, je ne crois pas. Tant qu'il y a de la communication dans le couple, tant que les choses sont dites, sont exposées au grand jour, que on s'entend, que il y a du respect, que par exemple si dans le couple qu'on formait auparavant, il était décidé que nos enfants allaient à l'école privée, ben écoutez, c'est sûr que c'est ça. Quand il y a du respect, quand les choses sont bien placées, c'est sûr que le sexe, l'éducation des enfants et l'argent, c'est les trois causes de séparation dans un couple. Alors l'argent, inévitablement, passe au cash.
Ça dit ce que ça a à dire. Mais il y a différents modèles de gestion des finances d'un couple. Il y a le « on met tout ce qu'on a en commun dans un seul compte, puis on paye tout avec ».
Oui.
Il y a le 50-50, puis il y a le prorata. Expliquez-nous les trois, les avantages et les désavantages.
Ben, écoutez, à brûle pour point comme ça, c'est sûr que j'ai envie de vous dire que lorsque on est un nouveau couple, c'est plus facile, on peut gérer comme deux colocs. Hein. Je vais prendre l'exemple des colocs qui paient moitié-moitié pour les dépenses de l'habitation, de l'Internet, s'il y a lieu, du téléphone, machin. Bon, alors maintenant, ça, c'est le 50-50, OK? Alors, au prorata du budget, à ce moment-là, c'est bien évidemment lorsque, par exemple, l'exemple que je donnais précédemment par rapport à l'idée d'envoyer ses enfants à l'école privée avec l'ancien couple qu'on formait auparavant lorsqu'on a eu ces enfants-là, ben il y a cet aspect-là. Donc, au prorata, je vous dirais, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais au prorata, je vais vous donner l'exemple, Yasmine. Par exemple, si vous formez un couple et qu'un jour, par exemple, vous avez un enfant. Donc, c'est sûr que si vous décidez d'allaiter pendant un an, que vous décidez de vous occuper du bébé pendant ses premiers mois, que vous convenez avec votre conjoint que vous n'allez pas reprendre le travail avant un certain temps, à ce moment-là, ça peut faire en sorte que vous auriez une entente avec monsieur ou madame et faire en sorte que, à ce moment-là, ben, il y en a un qui va peut-être payer plus au prorata des revenus. Alors, vous savez, il y a des gens qui s'entendent que, bon, ben, compte tenu que je fais plus de revenus que toi, je vais payer davantage.
Disons qu'une personne du couple fait 100 000, l'autre fait 30 000. Donc, une va payer plus, va contribuer plus aux dépenses de la famille que celle qui gagne 30 000 en fonction de leur contribution à la caisse commune, disons. Ben, c'est... C'est des modèles qui doivent avoir des avantages et des désavantages chacun. J'imagine qu'on peut s'informer et de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour nous dans les différentes plateformes, notamment numériques.
Oui, tout à fait. Mais il n'y a rien comme d'aller rencontrer une intervenante budgétaire dans une ASF. Il y en a beaucoup dans la province. Alors, vous savez, maintenant, on ne peut plus s'appeler Association coopérative d'économie familiale parce que la loi sur les coop a changé il y a moultes années. Alors, par exemple, je pourrais vous donner l'exemple de service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est qui s'appelle comme ça maintenant. Alors, d'aller rencontrer quelqu'un qui est neutre, quelqu'un avec lequel on pourrait faire une démarche éclairée, éclairante aussi. Donc, prendre le temps de mettre carte sur table pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Et on doit s'ajuster, hein. C'est comme, par exemple, si un des deux du couple décide d'aller faire une maîtrise pour avoir de meilleures chances d'emploi avec un meilleur revenu, ben ça aussi, ça peut être une chose qui vient jouer sur le budget. Donc,
tellement de circonstances qui peuvent venir atteindre un budget. Madame Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame Francine Hamel est intervenante en défense collective des droits.
À la CEF de Québec. Alors, nos services sont gratuits partout dans la province et principalement chez nous à Québec. Alors, je vous souhaite une excellente journée.
Merci.
Au plaisir de vous reparler. Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
L'ancien président américain Donald Trump a annoncé lundi que la célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, avait été perquisitionnée par le FBI. Lutte la liberté, êtes-vous surpris?
Bonjour Yasmine. C'est une première historique. C'est difficile de dire qu'on n'est pas totalement surpris. En même temps, ça fait déjà quelques jours, depuis même plusieurs semaines, avec les travaux de la commission du 6 janvier, qu'on affirme que l'étau se resserre autour de Donald Trump. Pour ceux qui se demandaient est-ce qu'il y a une justice encore aux États-Unis, quand on observe tout ce que Donald Trump a pu faire, qui est à la limite en périphérie de la Constitution ou encore qui carrément était illégal. Ce qu'il a fait à Mar-a-Lago et jusqu'à maintenant, les informations qu'on obtient, parce que ça sort au compte-goutte, ça va dans ce sens-là. À Mar-a-Lago, lorsque le président Trump a quitté la Maison-Blanche, il est parti avec une quinzaine de boîtes de documents classés secrets. Il y a une loi depuis 1978 aux États-Unis qui dit comment on doit gérer les papiers de la présidence américaine, comment on doit les préserver. On avait déjà entendu tout un volet autour de la destruction de certains papiers par des membres de l'administration Trump ou encore par Donald Trump lui-même. Il y a même des gens qui étaient affectés à « voici comment on récupère les petits papiers que le président jette ou détruit un peu partout ». Mais partir de la présidence avec des documents classés secrets, ça va de soi, ça enfreint la loi sur les archives présidentielles de 1978. Il semble que ce qui s'est passé à Mar-a-Lago, c'est que les agents du FBI ont agi, contrairement d'ailleurs à la réaction des républicains, qui a été instantanée, puis on a parlé de complot politique. Contrairement à ce qui s'est passé, si on débarque à Mar-a-Lago, les agents du FBI, c'est qu'on a obtenu en bonne et due forme un mandat de perquisition, et ça, on obtient ça d'un juge. Donc, si on parle de complot, il est très, très gros, le complot de l'État contre Donald Trump.
Ah, il implique des juges, il implique les démocrates, voilà. Il implique le FBI. Ça commence à faire beaucoup de monde contre Donald Trump.
Oui, puis c'est le même FBI que les Républicains encourageaient à attaquer Hillary Clinton, si on se souvient encore de la campagne 2016. Donc, c'est sans précédent. Il y a déjà des membres d'un entourage présidentiel, un ancien conseiller de Bill Clinton, chez qui le FBI était débarqué parce que lui avait, pensait-on, détruit des documents officiels. Mais contre un ancien président, on l'a souvent dit, elle était pour, hélas, de mauvaises raisons, historique, la présidence de Donald Trump. On vient de vivre un nouveau chapitre de cette façon de réécrire l'histoire de la présidence américaine. Moi, ce que je surveille de près maintenant, c'est est-ce que les documents qu'on a pris, c'est en soi illégal, mais on ne pourrait pas détenir ou emprisonner Donald Trump pour avoir brisé la loi la loi de 1978. Moi, ce que je surveille de près maintenant, c'est est-ce que les documents qu'il aurait, c'est ce qu'on affirme, qu'il aurait préservé ou emporté avec lui, sont en lien avec d'autres enquêtes qu'on mène actuellement. Le département de la justice enquête sur Donald Trump dans le contexte de l'assaut du 6 janvier, mais on sait aussi qu'il y a des tribunaux à New York qui travaillent sur le cas de Donald Trump. Tout ça n'est pas mort parce que M. Trump en parle moins ou peu. Donc, la suite va être tout aussi pertinente. Parce qu'on ne sait pas encore à quoi sont liés ces documents-là. Mais si le FBI débarque avec un mandat d'un juge, c'est qu'on pense qu'il y avait potentiellement quelque chose de criminel.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations déposées, même si ce ne sont pas des accusations menant à de l'emprisonnement, est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations déposées par le FBI après?
C'est-à-dire qu'on va faire ressortir carrément qu'on a enfreint la loi de 1978. Mais cette loi-là n'avait pas été prévue pour, comme on le dit en anglais, le to have teeth, pour avoir des dents, pour y aller de sanctions. C'est la raison pour laquelle je dis, surveillons aussi, a-t-il bel et bien enfreint cette loi? Le simple fait qu'on ait retrouvé déjà, qu'on soit allé chercher chez lui 15 boîtes, c'était déjà plus que louche, là. 15 boîtes de documents classés secrets. Quand un président déménage, là, c'est le genre, parce qu'on a dit que c'était une erreur, ce serait une très, très grosse erreur de partir avec 15 boîtes d'archives présidentielles. Mais enfin, faut prouver qu'il a donc enfreint cette loi-là. Moi, ce que je surveille le plus, si on parle vraiment là, d'accusation, mais d'arrestation, de procès possible, faut surveiller à quoi ces documents-là sont liés. Parce que visiblement, on en cherchait certains en particulier, là, et non pas, bien entendu, ce qui se trouvait dans les 15 boîtes qu'on a récupérées par la suite.
Luc, j'aimerais t'entendre sur le parallèle que je sais déjà boiteux, je l'avoue, mais on se rappelle dans le débat présidentiel qui a fait gagner Donald Trump, il criait « lock her up » à une Hillary Clinton à propos de l'utilisation d'un serveur privé. Parce qu'il considérait que c'était tellement grave puis tellement une trahison pour les responsabilités qui étaient les siennes qu'il n'a pas hésité à utiliser ça contre elle durant une campagne électorale. Est-ce que tu penses que les démocrates vont prendre leur revanche cette fois-ci?
Écoute, c'est moins les démocrates, parce que sinon tout le monde va parler d'un jeu qui est strictement partisan. Ce sont moins les démocrates que je surveille que l'application de la justice. Et là, c'est l'historien en moi qui parle. Madame Clinton a parfois joué en eau trouble. Les deux Clinton l'ont fait, d'ailleurs. Et j'étais content qu'on s'intéresse de près à ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment dans une perspective historique que je vais répondre à ta question. Aucun président n'a fait tout ce que Donald Trump a fait pendant sa campagne électorale et pendant, jusqu'à maintenant, en tout cas, son seul mandat à la présidence. Si quelqu'un a largement mérité une procédure de destitution dans l'histoire américaine, c'est bien lui. Il a eu le droit à deux, mais c'est un processus partisan. Les républicains ont choisi de le protéger et de le suivre. Faudra voir maintenant ce que la justice dit. Et il faut se rappeler que la justice, si Donald Trump lui-même n'est pas derrière les barreaux présentement, et il y a le fait d'être président qui joue là-dessus, plusieurs membres de son entourage se sont retrouvés derrière les barreaux, vont y retourner, dans le cas de Steve Bannon, et quand M. Trump s'est adressé aux tribunaux pour tester ce qu'on appelle le big lie ou le grand mensonge, Écoute, à 99,9%, on a rejeté toutes ces demandes et ces allégations. Parfois, on a même refusé d'entendre ses avocats tellement ce qu'on proposait était brouillon ou encore que ça relevait de la farce. Sinistre, mais de la farce. Donc, les tribunaux font leur travail jusqu'à maintenant. Moi, je pense, et là, je prolonge un peu la réponse à ta question, moi, je pense que ce serait un service à rendre aux Américains, mais surtout à la Constitution américaine, que d'accuser Donald Trump, entre autres dans le dossier du 6 janvier. Si on laisse courir ce gars-là après tout ce qu'il a fait, ben aussi bien baisser les bras pour la suite, parce que quelqu'un d'autre va profiter des mêmes failles puis continuer à saboter le système.
Luc Laliberté, merci beaucoup.
Un grand plaisir.
À très bientôt.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
On a vu une grande victoire du clan Biden dans les derniers jours où un plan climat a été adopté. Et c'est un plan climat historique. On en parle évidemment avec mon ami Tom Mulcair. Bonjour Tom.
Hey, salut Yasmine.
Ça va bien. Donc, ce plan climat qui a été adopté, c'est quand même une première.
Oui, c'est une première. Il y avait beaucoup de promesses lorsque Biden a été élu et beaucoup de déceptions après sa première année au pouvoir. Il avait nommé quelqu'un que lui, il considérait bien capable de faire le job et c'était à la fois politique et administratif et c'était un échec total en un an. En fait, Yasmine, après un an seulement d'avoir été assermenté président, les États-Unis avaient connu une augmentation de 25% dans la quantité de charbon thermique, charbon brûlé donc pour créer de l'électricité, une augmentation de 25% en un an. C'était scandaleux et comme beaucoup de gens, j'avais vu énormément de possibilités avec le plan Biden qui était très songé, soutenu notamment par Janet Yellen qui était sa présidente qu'on pourrait comparer du Conseil du Trésor aux États-Unis. Et donc, il y avait beaucoup de possibilités dans l'air et beaucoup de pollution dans l'air, mais finalement, rien n'est arrivé. Et voilà que Biden double la mise. Il va devant le Sénat, il pousse son plan, il dit c'est ça que ça nous prend pour arriver à bout des changements climatiques et de l'augmentation des gaz à effet de serre. Les États-Unis ont promis, Biden a signé l'accord de Paris le premier jour après son arrivée, et lui, il a promis moins 40% d'ici 2030. C'est très ambitieux. Mais tous les experts, Yasmine, se concordent pour dire que le plan qui a été adopté le week-end dernier pourrait faire la job. C'est étonnant, c'est merveilleux pour les générations futures et ça nous permet de regarder et de contraster avec ce que le Canada fait et surtout ce que le Canada ne fait pas. Il y a deux semaines, Stephen Guilbeault a encore tenté de justifier l'injustifiable parce que rappelons que Trudeau et Guilbeault ont approuvé un massif nouveau projet d'énergie fossile offshore, qu'on dit, c'est-à-dire au large de Terre-Neuve-Labrador. C'est proprement scandaleux. C'est impossible pour Canada de rencontrer ses obligations avec ce nouveau projet. Et voilà que Guilbeault a commencé à laisser sortir un tout petit peu du sac, une patte du chat du moins. Il dit, ouais, apparemment, les compagnies nous disent que ça va prendre une couple d'années de plus que ce que je pensais, mais juste une couple d'années, puis on va leur donner des crédits carbone pour telle affaire. C'était tellement compliqué, tous les experts ont rigolé.
Mais en même temps, Tom, est-ce que les attentes sont juste trop élevées pour Stephen Guilbeault? T'sais, on a tellement d'attentes, on s'attend à ce qu'il incarne encore le Greenpeace. Il y a comme une réalité de la responsabilité ministérielle puis le pouvoir qui finit par frapper à ta porte?
Oui, puis à ce moment-là, si ça va contre tout ce que tu as toujours dit et que tu sais que c'est complètement factice et que tu n'as aucune chance, possibilité réelle de rencontrer les obligations et ce que tu as promis de faire, tu es face à un choix personnel. Moi, quand j'étais face au choix de signer un décret que j'ai refusé de faire, je voulais que je signe un décret pour transférer des terres dans un parc national du Mont Orford vers des entreprises privées pour construire des condominiums. J'ai dit, je ne le ferai pas. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour le faire et je n'étais plus au Conseil des ministres. Guilbeault ne se gêne pas de toujours se présenter comme le grand environnementaliste qu'il a déjà été. Mais maintenant, quand ils se présentent dans des événements, les gens regardent les lacets sur leurs chaussures, ils ne savent plus quoi faire ou quoi dire pour lui expliquer qu'il n'a pas de crédibilité pour venir dans ces événements-là, parce qu'il est en train de travailler avec un gouvernement qui ne cesse d'augmenter notre production des gaz à effet de serre, malgré les belles promesses. De dire, Yasmine, que ce sont les compagnies maintenant, c'est ça qu'il a dit, mot à mot, qui vont dire combien de temps il faut pour rencontrer, ça renvoie au début avec Trudeau. Lorsque les libéraux ont signé Kyoto, ils n'avaient pas de plan. Mais le chef de cabinet de M. Chrétien d'alors, il s'appelait Ellie Goldenberg, a fait un aveu intéressant. Il a dit, c'est vrai qu'on n'avait pas de plan pour rencontrer les objectifs de Kyoto, mais on a signé pour, et ça c'est son terme exact, pour galvaniser l'opinion publique. Ce qu'il admettait, c'est que pour les libéraux, tout est politique, et bon, le public voulait qu'on en parle un petit peu de gaz à effet de serre, de changement climatique, de Kyoto, on a signé Kyoto, mais le Canada a eu un des pires bilans au monde après la signature de Kyoto, à tel point que, sous les conservateurs, on est devenu le premier pays au monde de sortir de l'accord de Kyoto. Depuis la signature de Paris, le Canada a multiplié les annonces et les plans et on continue de s'enfarger et d'approuver de nouveaux projets de pétrole et de gaz dans le pays. Alors, c'est une contradiction flagrante et Biden, qui est un pays qui produit énormément de pétrole, de gaz et de charbon, est en train de montrer la voie qu'à un moment donné, il faut agir et le Canada n'est toujours pas rendu là.
On parle de 430 milliards d'investissements. Oui. C'est quand même énorme. Puis là, on parle de... là, c'est les moyens qui sont déposés en même temps que les paroles. Exact. Est-ce que ça va contribuer aux élections de mi-mandat des démocrates qui auront lieu dans 100 jours?
Question fascinante, parce que je sais que toi, tu as joué dans la politique à Québec. Tu sais à quel point les partis essaient de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis leurs promesses. Donc, il y a eu tout un jeu qui a duré toute la fin de semaine dernière où les conservateurs, c'est-à-dire les républicains, versus les progressistes, c'est-à-dire les démocrates, ont essayé de prendre la mesure l'un de l'autre. Alors, un proposait telle affaire pour mal faire paraître l'autre, et ainsi de suite, tout le week-end, vote par vote. Mais à la fin de la journée, la chose la plus importante qui soit passée, c'est qu'ils ont décidé d'agir. Et c'est ce que le Canada n'a toujours pas fait. C'est pas qu'il manque de la volonté dans la population. Question donc, est-ce que ça va aider ou nuire? Ça va dépendre comment c'est caractérisé. Moi, j'ai l'impression que l'Américain moyen, moi j'ai un bon ami qui est républicain, il est pro-Trump. Il sent obligé de s'excuser auprès de ses amis. Il habite à Tallahassee, il était au gouvernement de la Floride. Il se sent gêné de conduire un Tesla. Il dit, mais il faut quand même que je pense à mes petits-enfants. Donc, même des gens qui sont plus à droite en termes de leur idéologie politique, sociale, du côté environnemental, il y a très peu de gens qui sont anti-environnement ouvertement. Donc, je pense que Biden risque de faire le plein de vote dans ce centre un petit peu plus progressiste.
Rapidement, Tom, j'aimerais t'entendre sur une question que je sais qu'on n'a pas prévue, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu as été chef d'un parti politique. Si on t'avait dit qu'une personne de ton caucus que tu avais nommé ministre a encore une autre plainte d'harcèlement psychologique à propos d'un attaché politique. Il y a eu 2 autres plaintes, il y a eu 14 départs. Est-ce que tu y redonnes sa circonscription pour les élections qui s'en viennent?
Non. Non. Et il faut aller au fond de ces questions-là parce que c'est trop facile quand c'est un et l'autre. Mais comme principe de base, il faut croire les gens qui disent ça parce que pour chaque un qui va venir finir par faire une plainte, il y en a peut-être eu d'autres. Donc, lorsque ce sont des plaintes à répétition, il faut agir. Et je dois dire que c'est déjà arrivé quand il y avait des plaintes de harcèlement de différentes sortes, que j'agis très rapidement et définitivement, parce qu'on ne peut pas, c'est un peu c'est complètement un autre sujet, mais c'est la même notion. On parlait tantôt de faire semblant en matière d'action climat. Et on ne peut pas faire semblant de croire qu'il faut protéger les employés et par la suite ne pas agir définitivement pour régler le cas.
Je trouve ça fascinant, le cas qui nous occupe entre Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, députée caquiste, avec François Legault. Quelles discussions vont-ils avoir au courant des prochains jours? Va-t-elle demeurer la candidate de la CAQ?
C'est doublement difficile pour Legault parce que il y a tout le background que toi et moi on vient de mentionner. Dans le cas de Mme Proulx, il y a des choses qui ont été alléguées sur la place publique et pas vraiment, vraiment niées à ce que je sache. C'est selon son interprétation, mais disons que la manière que ça a été présenté, on serait plus porté à dire que la balance penche en faveur de croire les gens qui ont porté plainte par le passé, mais c'est difficile pour Legault dans un sens. Son bilan de traitement des femmes au sein de son conseil des ministres notamment, dès qu'il y avait le moindre entorse, si c'était une femme, bye-bye, c'était poussé par-dessus bord.
À part Marie-Ève Proulx.
Et dans le cas des gars, on n'a qu'à penser à quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon. Il a violé à répétition les règles et la loi en matière d'éthique. La pire peine qu'il a eue, c'est qu'il a été quelques mois en dehors du Conseil des ministres, puis Legault l'a accueilli de nouveau. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit du traitement des membres du Conseil des ministres, qu'on soit un homme ou une femme. Et ça, c'est le genre de choses qui finit par percoler au sein de la population. Et des gens disent, « Hey, coudonc, c'est un comportement un peu de notre époque, là, de Legault, d'avoir cette différence de traitement entre les femmes et les hommes. » Je ne dis pas que je sais ce qui s'est passé dans le cas de Mme Proulx. Ce que je dis, c'est que le background aurait eu tendance à donner la réponse « il faut agir rapidement et définitivement ». Puis d'un autre côté, il va avoir un autre, tu sais, il y a un ange sur une épaule de Legault, puis un petit diable sur l'autre, en train de danser chacun pour essayer d'avoir son attention. Il est
Tom,
un peu
manqué suivre,
à cause de son action.
On va suivre la réaction de François Legault au courant des prochains jours et on va probablement s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se parle demain.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Le commentaire à Yasmine à Cube Radio qu'on joint à l'instant. Bon début de journée.
Bonjour Simon.
On ne peut pas passer sous silence le dossier de Marie-Ève Proulx, autre plainte qui est portée contre elle.
Mais là, ça commence à s'accumuler, puis le problème, c'est que ça tombe mal. Parce que là, on est en route vers les élections, c'est le 3 octobre prochain. Elle a déjà été investie comme la candidate caquiste qui devrait revenir au Côte-du-Sud. Mais la réaction de M. Legault face à cette nouvelle révélation ce matin va être déterminante pour l'avenir politique de Mme Proulx. Est-ce qu'on va encore une fois passer l'éponge? Combien de fois on va passer l'éponge devant des allégations d'harcèlement psychologique? Elle a déjà été chassée du Conseil des ministres pour ces raisons-ci. Est-ce qu'elle mérite encore sa place au caucus caquiste? M. Legault va devoir répondre à cette question. Et j'imagine qu'il va avoir de bons arguments à présenter, peu importe la décision qu'il va prendre, parce que c'est pas chose aisée que de savoir qu'il y a des personnes, des attachés politiques, du personnel politique qui déposent plainte. Et probablement quand un dépose plainte, c'est qu'il y en a d'autres qui ont souffert avant et qui ont décidé de rester dans l'ombre. Combien on va accepter de plaintes d'harcèlement psychologique de la part de Marie-Ève Proulx pour dire que c'est inacceptable dans le caucus caquiste? Parce que là, honnêtement, il y a un sérieux problème, puis on peut pas juste dire que c'est isolé.
Est-ce que selon toi, elle devrait se retirer de la prochaine élection?
Moi, je pense qu'elle devrait avoir l'élégance de se retirer, de ne pas mettre son patron, François Legault, dans une situation où il va devoir choisir pour elle. Je pense qu'elle elle s'accroche à sa circonscription, alors qu'on voit que les relations sont tendues non seulement avec des politiciens du coin de sa région, mais également avec le personnel politique. Il y a quand même eu 14 départs depuis que Mme Proulx est rentrée en politique. C'est beaucoup. C'est énorme. Et ça, si on n'est pas capable de le justifier, et Mme Proulx ne s'est pas vraiment défendue quant aux allégations auxquelles elle a fait face pas juste celle de ce matin, mais même celle d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, ben, je pense que là, ça commence à être difficile à justifier, difficile à expliquer pourquoi elle reste dans un milieu où elle n'est visiblement pas en mesure de gérer les relations humaines qu'elle entretient, non seulement avec son personnel, mais avec ses collègues.
Je veux qu'on revienne ensemble, Yasmine, sur ces situations dans les aéroports. On a tellement parlé, les vols annulés, retardés, les problèmes de valises. Là, il y aura commission parlementaire. Est-ce que, selon toi, on en apprendra davantage?
Ce que je déplore, c'est que c'est maximum 2 heures durant lesquelles le ministre des Transports, Omer El Gabra, va comparaître dans une commission parlementaire à Ottawa, où il va se faire poser des questions. Je pense qu'on mérite plus que 2 heures du temps du ministre pour qu'il puisse nous expliquer comment ce chaos aux aéroports, dans nos infrastructures de voyage, a pu se passer sous sa responsabilité, sous sa gouverne. Quels sont les efforts qu'il y a mis et depuis quand il a commencé à s'intéresser à la question? Qu'on vienne pas me dire qu'on voyait pas venir l'engouement des Canadiens pour voyager, parce que ça, c'est écrit dans le ciel, puis n'importe quelle personne aurait pu le prévoir, à plus forte raison le ministre des Transports. Mais là, on parle de l'application ArriveCan. Elle fonctionne pas. Les tests aléatoires, ils ont-tu lieu, ils ont-tu pas lieu? Les douanes qui débordent, les annulations de vol, les bagages où c'est difficile de pouvoir avoir son bagage. Et ça, ça a fait en sorte de nous donner une réputation internationale à propos de nos infrastructures de voyage complètement désastreuses. Écoute, le New York Times, la BBC a parlé des aéroports canadiens. Alors, le gouvernement contribue à saper les efforts de son ministère du Tourisme. Moi, je pense que c'est une des questions que les députés devraient poser à M. El Gabra. Il devra être prêt à répondre à ces questions parce que les Canadiens en ont vécu des vertes et des pommures cet été et attendent des réponses. Ce n'est pas un privilège que d'avoir accès à des infrastructures qui roulent. C'est un droit que l'on paye très cher avec l'argent des contribuables, l'argent de nos taxes et de nos impôts.
Surtout quand on se rend compte que des compagnies, comme par exemple Air Canada, on en parlait hier matin, mais qui essaient par toutes les façons de ne pas dédommager les voyageurs, là.
On donne pas de réponse. Tout d'un coup, l'annulation pour cause de manque de personnel devient une question de sécurité et donc une raison que l'on peut invoquer pour ne pas appliquer la toute nouvelle Charte des droits des voyageurs qui a été adoptée par le gouvernement. Le ministre va devoir répondre quelles sont les relations et quelles sont les interactions qu'il a eues avec Air Canada pour s'assurer que notre compagnie de voyage national soit la première à tout le moins à respecter la Charte des droits des voyageurs. Parce que ceux qui ont été floués, qui ont vu leur vol être annulé, ben ils ont le droit à des réponses, ils ont le droit à des compensations et à tout le moins, ils ont le droit au remboursement des dépenses qu'ils ont courues et qui ont été perdues sans que ça soit leur faute. Le ministre doit préparer des réponses qui se tiennent. On veut pas savoir s'il s'intéresse au dossier, si le dossier est prioritaire, si c'est au cœur de ses préoccupations. On veut savoir quelles sont les décisions qu'il a prises pour régler cette situation une fois pour toutes.
Merci Yasmine, passe une belle journée.
Merci
à demain.
Simon, à demain.
Vous écoutez Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
On a appris ce matin que l'opération Sac à dos 2022 du regroupement Partage est touchée de plein fouet par l'inflation. Puis ça fait en sorte que 2000 enfants de moins qu'en 2021 pourront être aidés pour acheter leur fourniture scolaire. On a avec nous Audrey Renaud, directrice générale du regroupement Partage. Bonjour, Madame Renaud.
Bonjour.
Alors, comment cette inflation a pu vous toucher? Parce qu'elle touche aussi beaucoup les familles.
Oui, vous avez vraiment raison. En fait, la façon que ça a touché principalement le regroupement Partage, il faut comprendre que nous, à chaque année, là, on fait évidemment des achats de masse là, pour aider autant d'enfants, donc autant au niveau des denrées alimentaires que pour les sacs à dos. Donc, l'opération sac à dos, juste un petit rappel, là, c'est vraiment on va fournir un sac à dos, une boîte à lunch, un coffre crayon à chaque enfant.
Madame Renaud, est-ce que vous êtes encore là? Je pense qu'on a perdu la ligne avec Madame.
Ah. Oh. Ça nous aide à avoir de plus grandes quantités toutefois avec l'inflation de l'année.
Madame Renault va nous revenir. La ligne semble se couper, mais c'est vraiment dommage parce que l'inflation touche toutes les familles, évidemment. Ça touche les familles, évidemment, les plus vulnérables qui ont tendance à encore plus aller chercher de l'aide, à lever la main, notamment auprès du regroupement Partage. Et là, malheureusement, les sommes recueillies par le regroupement Partage ne permettent d'aider moins de personnes. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir venir en aide à tous ces enfants qui rentrent à l'école, qui ont besoin d'une boîte à lunch, d'un sac d'école, d'un étui à crayon, de fournitures. Il me semble que c'est pas un luxe. La moindre des choses, c'est que s'assurer que les enfants puissent faire une rentrée scolaire digne, qu'ils ne soient pas inquiets, de un petit peu alléger le fardeau économique des parents à la veille de cette rentrée. On me dit que le réseau est rétabli avec Mme Renault.
Oui, j'y suis.
Alors, dites-nous comment vous nous disiez que les familles sont plus nombreuses à lever les mains, mais malheureusement, il y a une capacité moindre de pouvoir aider tout le monde.
Oui, exactement. Dû à l'inflation, nous, évidemment, on dépend du bon vouloir de la société. Donc, on dépend des dons des entreprises, on dépend des dons des particuliers. Mais à ce stade-ci, évidemment, l'inflation touche autant la population que les entreprises qui ont vécu des coups durs post-pandémiques. Et c'est là où notre marge de manœuvre, elle est largement limitée. Comme je disais plus tôt, là, je pense que ça a coupé, mais pour notre pouvoir d'achat. Et c'est là où on a dû prendre la difficile décision, mais raisonnable, de fournir adéquatement 5 000 enfants, en fait, fournir les équipements à 5 000 enfants plutôt que 7 000 comme l'année dernière, mais en très, très petite quantité, autant au niveau des denrées alimentaires que des effectifs scolaires.
Et comme ça doit être un choix déchirant pour vous de devoir faire une sélection de qui va en avoir et qui ne va pas en avoir, est-ce que vous avez revu vos critères de manière plus élevée?
En fait, déchirant, là, le mot est faible, c'est épouvantable. Par contre, ce qui arrive, c'est que nous, on n'est pas, si je peux faire le parallèle avec le domaine de la santé pour que ça soit une référence facile, là, nous ne sommes pas des intervenants de première ligne. C'est-à-dire que nous, on n'a pas au regroupement Partage le contact direct avec le bénéficiaire, donc le sac à dos ne partira pas de mes mains vers la famille. Ça se fait à travers les cartes. Et ça, c'est voulu parce que ce que ça fait, c'est que ça va offrir une porte d'entrée, un réseau d'entraide à ces familles-là. Donc, dans leur quartier, ils ont accès à des travailleurs sociaux, des intervenants de rue. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient bien encadrés. Donc, eux ont cette gestion-là à faire de sélection. Et la sélection est difficile. Mais il faut comprendre qu'à ce stade-ci, les demandes fusent de partout. Nous, on a des demandes directement des bénéficiaires sur l'île de Montréal, à l'extérieur de l'île de Montréal, donc en banlieue. Et là, les courriels qu'on reçoit, là, c'est assez déchirant. Des parents qui nous écrivent bon, que les deux parents travaillent, mais qu'ils n'y arrivent plus, ne peuvent plus avoir de ressources nécessaires pour acheter les effectifs scolaires et nous demandent de les aider. Et là, c'est nous où on doit les référer dans les quartiers appropriés pour qu'ils soient pris en charge immédiatement parce que ce sont de nouvelles familles qui glissent dans la pauvreté et c'est effectivement crève-cœur.
Comment on peut aider? Quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui et qui dit « ben moi, je veux faire une bonne action, je veux contribuer, comment on peut aider? »
Bonne action, là, je veux reprendre vos mots parce que le mot est justement choisi parce qu'il faut réaliser qu'en 2022, on se doit d'offrir chance égale à tous les enfants à la rentrée. On ne peut pas socialement accepter qu'un enfant arrive à l'école avec un sac plastique en guise de sac à dos. Et c'est ce qu'on voit. Donc, les gens peuvent effectivement donner à opérationsacado.ca. Sinon, peuvent nous appeler directement, mais la formule de don, elle est très simple sur Internet. Et ils peuvent même venir visiter les différents magasins Partage qui auront lieu dans les 18 quartiers sélectionnés à Montréal. Donc, qui se tient du 15 au 19 août. Donc, ils peuvent agir à titre de bénévole, fournir des denrées alimentaires, fournir des fournitures scolaires au regroupement Partage. Puis nous, on prendra bien soin d'aller diviser ça à tout le monde.
Votre opération de distribution des sacs d'école et des fournitures scolaires, évidemment, on est le 9 août, on a encore quelques jours avant le début des classes, mais c'est quand le moment charnière là, où vous devez aller livrer les différentes fournitures aux enfants?
En fait, le moment charnière est vraiment du 15 au 19 août. Par contre, puisque à chaque année, il y a des dons qui arrivent plus tardivement, et c'est tout à fait correct, nous, les surplus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un achat immédiat on refait de nouveaux sacs à dos et on va les distribuer directement dans les centres scolaires. Et là, à ce moment-là, ces gens-là deviennent nos yeux, puis peuvent faire la distribution directement aux élèves qu'ils voient arriver un peu mal équipés pour la rentrée. Donc, les surplus sont directement acheminés dans les centres scolaires plutôt que dans les quartiers dans la période du 15 au 19. Donc, il n'est jamais trop tard pour aider.
Qu'est-ce qui va arriver à... Comment vous voyez l'impact de ces 2000 enfants qui, malheureusement, ne pourront pas être aidés? On passe de 7000 à 5000. Comment vous voyez ça de votre côté?
En fait, je vais reprendre un petit peu ce que vous dites parce que c'est 2000 de moins que l'année dernière, mais à ce stade-ci, nos 5000 enfants qu'on dessert, sachez que c'est 5% des besoins réels uniquement sur l'île de Montréal. Donc, c'est pas seulement 2000 enfants qu'on n'arrive pas à aider. C'est beaucoup plus. Et là, à ce stade-ci, nous, sachez qu'on cogne aux portes des différentes entreprises pour solliciter leur générosité, mais surtout au niveau gouvernemental pour avoir un soutien financier adéquat à subvenir aux besoins de base de ces enfants-là. Dans certains quartiers de Montréal, c'est un enfant sur trois qui vit de l'insécurité alimentaire. Et il faut comprendre que de l'insécurité alimentaire, là, ces enfants-là ont un, des fois deux repas par jour, aucune collation, on oublie les lunchs, et c'est là où ça devient immensément, un creux immense pour ces gens-là versus les enfants qui arrivent d'une famille aisée. Donc, c'est primordial de soutenir ces enfants-là parce que c'est inévitable que ces enfants-là ne seront pas attirés à rester à l'école en étant aussi entre guillemets différents d'un enfant d'une famille aisée qui est proprement équipé et avec son lunch, sa nourriture. Et c'est là où ce n'est pas seulement 2000 qu'on n'aide pas, c'est bien au-delà. Donc, il faut prendre action maintenant parce que c'est beaucoup d'enfants en ce moment qui sont laissés pour compte et croyez-moi, c'est pas par choix.
Si le gouvernement sortait le chéquier aujourd'hui puis vous disait de combien, c'est quoi le montant magique dont vous aurez besoin aujourd'hui pour répondre à la demande, quelle serait votre réponse?
Actuellement, c'est extrêmement difficile à pouvoir répondre à ça là, parce que littéralement, on parle de millions. C'est en sachant actuellement le budget puis la charge financière que ça demande, c'est des millions en termes de denrées alimentaires pour fournir à tous ces enfants-là, ne serait-ce qu'un deuxième repas par jour et une collation. Donc, tous les quartiers travaillent très, très fort actuellement, mais en silo. Mais ça prend une concertation générale. Ça prend un mouvement de masse qui est plus important au niveau financier de la part du gouvernement pour subventionner ces différents organismes-là, dont le nôtre, mais pour justement fournir adéquatement. Mais on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, là.
Madame Renaud, merci beaucoup d'être venue nous partager ça. Je rappelle qu'on peut encore donner... Encore oui. Participer, regroupementpartage.ca. Vous allez tomber sur le lien menant vers l'opération Sac à dos. Donner peu, donner beaucoup, juste donner et participer à ce que les enfants puissent rentrer à l'école dignement. C'est l'école le gage de la sortie de la pauvreté. Madame Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on espère ne pas avoir à vous reparler l'année prochaine pour parce que tous les enfants auront des repas et auront des sacs à dos.
Oh, je l'espère. Merci infiniment pour votre temps.
Merci beaucoup.
Yasmine Abdel Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel Fadel.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, hier a juré la main sur le cœur qu'au Canada, on n'utilise pas des logiciels espions de type Pegasus. Pour finalement, ben oui, on en utilise de temps en temps. Et Félix Séguin, je suis sûre que tu avais un petit sourire de coin à lire les articles qui se sont succédés après ça.
Oui, parce que ça fait plusieurs mois au bureau d'enquête, nous, que nous avons posé des questions à la Sûreté du Québec, à la GRC, au SPVM, sur l'utilisation des logiciels espions, sur l'utilisation de Pegasus aussi, parce qu'évidemment, après la commercialisation du logiciel par une compagnie privée israélienne qui permettait que ce logiciel se retrouve et utilise aussi sa technologie, pas toujours à bon escient. On voulait savoir si les services de police canadiens y avaient recours. Et on s'est fait un peu, pas endormir, mais on s'est fait répondre des réponses, en fait, qui avaient ni queue ni tête. Alors, on avait bien hâte hier de voir la GRC qui devait absolument répondre aux questions. Puis, c'est drôle, ça me faisait l'idée, quand je voyais le témoignage de Brenda Luckey, qui est la commissaire de la GRC, c'est comme si elle nous disait, non, tu sais, exemple, quand tu sermonnes un enfant, alors, as-tu volé le crayon de ton ami? Là, c'est comme si on lui disait, as-tu volé le crayon de ton ami? Non, elle dit, c'est pas son crayon que j'ai volé, c'est son efface. Tu comprends?
C'est exactement ça.
Ça me faisait un peu cette idée-là, parce qu'au fond, on a appris, donc, pour être plus sérieux, que oui, la GRC utilise depuis 10 ans des logiciels espions, pas Pegasus, par exemple. Donc, la GRC, hier, devant le comité permanent de l'accès à l'information, a dit jamais acheté, jamais utilisé ce logiciel produit par la compagnie NSO. Et là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de regarder pourquoi, nous, on utilise les logiciels espions au Canada. Alors, la GRC dit que c'est une utilisation ciblée et limitée dans le temps et ne sert pas à effectuer une surveillance de masse. Donc, des enquêtes sur quoi? Des enquêtes sur le terrorisme, sur le trafic de drogue, mais des gros réseaux de trafic de drogue, meurtres à but de confiance. Il y a même ce logiciel qui a été utilisé dans une enquête visant un policier. Alors, on a su ça. Alors, là, il y a eu beaucoup de questions. Tu sais que René Villemur, qui est député bloquiste maintenant, si ma mémoire est fidèle, il était éthicien avant.
Oui, absolument.
Alors, bon, alors, il avait beaucoup de questions. Ça confirme que ces questions ont confirmé que la GRC est effectivement en mesure d'utiliser des logiciels espions. Qu'est-ce que ça fait un logiciel espion? Ça s'installe sur ton cellulaire profitant de certaines failles. Et ensuite, ça permet de lire tes messages, d'écouter tes appels en clair, de lire tes textos. Ça permet d'ouvrir, d'éteindre la caméra, soit de face ou de profondeur de ton téléphone. Et voilà, mais ce que je trouve encore plus intéressant dans le débat qui est un peu joint, qui est un peu attaché comme un grelot au logiciel espion, c'est que qu'est-ce qu'on en fait au niveau judiciaire, puis qu'est-ce qu'on va en faire pour être bien sûr qu'on balise au Canada bien son utilisation. Ce que je trouve intéressant, puis ça, je trouve que c'est un point pour la police, on dit que ce cryptage-là a commencé quand les policiers, heureusement, Yasmine, avaient des autorisations judiciaires d'intercepter. Donc,
il manquerait plus que ça.
Oui, exactement, il manquerait plus que ça. Donc, c'est donc un juge à qui on présente souvent un affidavit au soutien de mandat. Et après ces mandats, le juge, s'il a des bonnes raisons de croire que l'interception des communications serait utile à l'enquête, il l'autorise. Et c'est donc dans ce cadre-là que c'est fait. Il semble qu'on ne peut pas entendre l'audio, entendre les appels téléphoniques dans le cadre du mandat, ou voir les messages qu'on envoyait dans le cadre de ce même mandat. Ça a été comme balisé ainsi. Et là, en plus, ce qui vient s'ajouter, c'est aussi la réponse du commissaire à l'information qui, lui, aimerait bien ça, si je te résume, être averti à chaque fois qu'on utilise ce logiciel-là, puis le baliser à chaque fois. Là, je pense que...
ça commence à être difficile, parce que normalement, on fait des opérations d'espionnage comme ça, mais évidemment, c'est important d'avoir un mandat du juge, mais commencer à aller voir le commissaire à la vie de protection de la vie privée, ça commence à alourdir la bureaucratie.
Exactement, mais il n'y a pas que ça aussi, parce que en clair, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir des évaluations d'impact avant que ces écoutes-là, entre guillemets, ou ces installations de logiciels espions soient effectuées. Sauf que un principe vient en bafouer un autre, c'est-à-dire que, évidemment, la police peut difficilement effectivement informé le commissaire à l'information qu'elle va enquêter sur un exemple, qui sont des squads d'intégrants de sécurité nationale, vont enquêter sur un réseau terroriste. Donc, dans l'application, ça, il semble y avoir quelques problèmes. Mais enfin, et puis de toute façon, ça, pour en revenir au logiciel espion, puis au controversé Pegasus, ce n'est pas parce que certains pays, les États-Unis l'ont prouvé avec le logiciel Echelon, c'est pas parce que certains pays se drapent dans une rectitude ou une droiture sur la manière dont ils utilisent ces logiciels-là, qu'ils n'ont pas par la bande la possibilité de le faire. On n'a qu'à penser aux États-Unis qui s'est adressé à la communauté Five Eyes. Donc, ces pays du Commonwealth, qui est une communauté de renseignement de sécurité, je pense qu'on a Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre, l'autre, je l'oublie, mais qui ont partagé des informations sur des citoyens américains. Donc, au fond, les États-Unis sont adressés à ses partenaires voisins pour faire indirectement ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement. Alors voilà, pour ces logiciels espions et leur utilisation.
Et il y a cette horrible découverte qu'on a appris hier dans une benne à ordures à Hochelaga, Maisonneuve. Ça glace le sang quand même.
Oui, et on a la confirmation que c'est maintenant un meurtre. En fait, c'est essentiellement ce que je voulais te dire, le 18e à survenir sur le territoire desservi par le SPVM depuis le début de l'année. Alors, ce sont des vidangeurs qui vident un bac de recyclage dans Hochelaga-Maisonneuve lundi matin. Et bon, je t'épargne plusieurs détails, là, mais ils ont aperçu un corps au coin des rues Adam et Les Tourneaux, ben, 8 des Tourneaux, plutôt vers 8h50. Et ils ont alerté les policiers assez rapidement. Puis on a su assez tard, en fait. On pensait que c'était un homme d'une soixantaine, un peu plus de 60 ans, qui s'était retrouvé dans cette position. C'est finalement un homme âgé d'environ 50 ans. Son décès, bien sûr, a été constaté sur place. Mais là, ce qu'on a appris en soirée, c'est que le corps portait des marques apparentes de violence. Et c'est donc un homicide maintenant triste fin, n'est-ce pas?
On va en apprendre plus probablement après l'enquête. Il y a cette diplomate sénégalaise dans la région de Gatineau qui dit avoir été tabassée par la police. Et en même temps, on apprend qu'elle avait contribué à complètement détruire une maison qu'elle louait.
Oui, c'est ça. Ça m'a interpellé cette histoire-là en fin de semaine parce que Oumou Kalsoum Sall a fait une sortie en règle avec aussi les autorités sénégalaises, comme un mini-incident diplomatique. Elle disait avoir été tabassée par la police de Gatineau. C'était ses prétentions. Les diplomates, le consul, le chargé d'affaires sénégalais, le ministère des Affaires étrangères s'en étaient mêlés en demandant l'édition de compte au Canada, etc., etc. Mais lorsqu'on lit aujourd'hui dans le Journal de Montréal l'article de Francis Pilon, on en apprend un peu plus sur cette femme, sur cette diplomate. Donc, le tribunal administratif du logement, le TAL, lui a ordonné de payer 45 000 $ à un propriétaire de Gatineau, le propriétaire de son logement, parce que son logement est infesté de coquerelles. Et le mobilier semble être plein d'insectes, les meubles éraflés, gratignés, du barbecue au charbon de bois à l'intérieur du domicile. Une maison moisie, donc elle a loué cette voiture-là cette maison de 2018 à 2020. Il semble qu'elle était décorée avec goût, note la juge dans ce dossier, mais qu'après son passage, elle s'est énormément détériorée.
On se pose des questions alors, voilà, quant à l'impact ou les conséquences potentielles avec l'immunité diplomatique que l'on connaît et que l'on reconnaît pour les diplomates. Est-ce que ça s'applique dans ce genre d'incidents, de crimes,
ben,
entre guillemets?
C'est une très bonne question, sauf que ce que je trouvais intéressant d'amener à notre connaissance, bien sûr, quand quelqu'un se plaint des agissements ou d'une certaine brutalité de la police, puis qu'on découvre que sa cour n'est pas complètement nettoyée, ça devient d'intérêt public. Alors, c'est pour
absolument
ça que j'en ai parlé.
Félix Séguin, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Merci, au revoir.
C'était donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 7h le matin sur les ondes de Cube. Je vous laisse entre les mains de Alexandre Moranville-Ouellette et je vous dis à demain.
Cube Radio.